France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Jean-Marc Morandini, un prédateur dans le poste. Le 12 juin 2016, une enquête publiée par le magazine Les Inrecuptibles vise cette ancienne gloire de la télé des années 90 et aujourd'hui animateur pour CNews, média de groupe Bolloré. Les Inrocs révèlent ainsi qu'en 2015, l'animateur a produit une web-série restée confidentielle baptisée Les Faucons. Selon de jeunes comédiens, il a profité du casting pour leur demander des vidéos dénudées et même de se masturber face à la caméra. Pour parvenir à ses fins, Morandini se serait fait passer pour une certaine Catherine Leclerc, une fausse directrice de casting. Ces lourdes accusations n'empêchent pas Vincent Bolloré de l'embaucher chez iTélé 6 mois plus tard, ce qui déclenche une grève inédite au sein de la chaîne. 10 ans après les faits, le volet judiciaire de l'affaire n'est pas terminé. En janvier 2025, Jean-Marc Morandini a bien été condamné en appel pour harcèlement sexuel et travail dissimulé dans l'affaire des Faucons, mais il s'est pourvu en cassation. En mars 2025, il a également été condamné en appel dans une autre affaire sordide qui concerne cette fois des mineurs. Là encore, pourvoi en cassation. Donc, à ce jour, Jean-Marc Morandini est présumé innocent. Notre invitée aujourd'hui, Fanny Marlier, journaliste indépendante et ex-rédactrice en chef adjointe des Inrecuptibles, c'est à elle qu'on doit les premières révélations sur le système Morandini. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Colline Claveau-Mègevant, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Juillet 2015, 8e arrondissement de Paris. Gabriel, 19 ans, gueule d'ange, l'air un peu perdu, s'arrête en face d'un bel immeuble haussmannien situé au 26 bis rue François 1er. C'est là que se trouvent les locaux d'Europe 1. Des agents de sécurité font le pied de grue devant la station. Alors le jeune homme s'avance jusqu'à eux et leur lance, le cœur battant, « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jean-Marc Morandini, est-ce que je peux entrer ?» Quelques minutes plus tard, c'est l'animateur de 50 ans en personne qui accueille Gabriel. Costume sombre et sourire carnassier, il lui propose un tour de locaux. En passant de studio en studio, Morandini s'exclame « C'est ici que travaillent les stars de la radio. Anne Sinclair, Nikos, Cyril Hanouna. Oh bien sûr, je les connais tous, hein. Ce sont même des amis. » Bon, que des noms connus, Gabriel a des étoiles dans les yeux. Mais au détour d'un couloir, Jean-Marc Morandini lui met la main sur l'épaule et lui dit « On va aller dans mon bureau, on sera plus tranquille. » Bien, Gabriel le suit, le piège se referme. Avril 2016, Fanny Marlier, journaliste pigiste de 26 ans, est assise devant son ordi. Elle vient de recevoir un tuyau, comme on dit dans la profession. Un confrère lui a glissé « Tu savais que Morandini produisait une série un peu bizarre ? Tu devrais creuser. » La jeune femme est intriguée, mais par où commencer ? Elle ouvre Google, puis tape « Série Morandini ». Le moteur de recherche la dirige d'abord vers une annonce de casting postée sur le blog de l'animateur et qui dit « Cherche jeune acteur pour projet de web-série ». Puis elle arrive sur Dailymotion, où la web-série en question a été mise en ligne. Son titre « Les Faucons ». Et cette précision, une version interdite aux moins de 16 ans est disponible moyennement paiement. Qu'à cela ne tienne, Fanny Marlier sort sa carte bleue. Et là, ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Les 3 épisodes de la série semblent filmés au vieux caméscope. La réalisation est inexistante. Quant au scénario, il est carrément indigent. Une équipe de foot amateur, les fameux Faucons, perd tous ses matchs, mais une nouvelle coach arrive, sur ordre du dirigeant du club, joué par Morandini lui-même. Cette très maigre intrigue n'a qu'un objectif. Montrer des scènes pseudo-érotiques où les jeunes comédiens apparaissent entièrement nus, comme dans cette séquence tournée dans les vestiaires du club de foot.
T'as reçu combien de
3.
J'en aurai plus ce soir, mais ce sera un peu plus cher.
Vous faites quoi tous les deux collés comme ça à poil?
Mais les gars, si je connaissais pas vos copines, j'aurais un doute, hein.
Qu'est-ce que tu fous encore habillé, toi? Allez hop! Allez, à toi là!
Douche! Allez là!
Stupéfaite par ce qu'elle vient de voir, Fanny Marlier fait défiler la souris. C'est bien le Zappépa Productions qui signe ce projet. Alors elle attrape un bloc-notes et note un à un les noms des jeunes acteurs. Parmi eux, un certain Gabriel, que la journaliste n'a aucun mal à retrouver sur les réseaux sociaux. Alors elle lui écrit « Souhaitez-vous évoquer votre expérience sur le tournage des Faucons ?»« Oui, eh bien parfait. » Fanny Marlier appelle et Gabriel lui raconte tout. Son rêve de cinéma, son inscription sur le site internet Nawalk, qui répertorie des petites annonces du monde du spectacle, et surtout, ce mail, signé d'une certaine Catherine Leclerc, qui se présente comme directrice de casting pour Ne Zappez Pas Productions, la société de Morandini. C'est elle qui propose une première expérience d'acteur à Gabriel. « Ce jour-là, il est comme un fou », explique-t-il à Fanny Marlier. En tout, la journaliste va recueillir le témoignage de 5 jeunes hommes. Tous ont entre 18 et 25 ans. Tous rêvent de faire carrière dans le show business. Entre 2015 et 2016, ils ont échangé par mail et par SMS avec Catherine Leclerc, qui dit chercher des profils pour un projet très original. Mais attention, prévient Catherine. Pour obtenir le rôle, les jeunes comédiens doivent lui envoyer une vidéo d'improvisation entièrement nue, comme s'ils étaient dans des vestiaires. Évidemment, la série restera de bon goût, promet Catherine. Mais elle doit s'assurer que les talents sont à l'aise devant une caméra. Et ils peuvent lui faire confiance. Elle travaille avec des stars comme Cyril Hanouna et bien sûr Jean-Marc Morandini, qui produit la série et jouera même dedans. Donc, tout est nickel. Le tournage des Faucons se déroule entre septembre 2015 et février 2016. Parmi la douzaine de comédiens, tous n'ont pas été prévenus du caractère explicite de la web-série. Et c'est là qu'ils déchantent. La production leur demande de jouer nus. Certaines scènes sont érotiques, voire carrément pornographiques. Quentin, 24 ans au moment des faits, raconte au micro de BFM TV.
On nous a pas dit ce qu'il en était sur les scripts. Les scènes étaient floues. Je me souviens d'une scène de sexe entre deux comédiens, un comédien et une comédienne. Et au moment où le comédien s'est un peu offusqué le jour du tournage, on lui a dit « Mais tu savais à quoi t'attendre ?» On a tous dit « Bah non, pas vraiment justement. » Et la réponse qui lui a été donnée, c'est « Tiens, prends ce téléphone, appelle Morandini et tu t'arranges avec lui. »
Le 13 juillet 2016, le magazine Les Inrecuptibles sort dans tous les kiosques de France. La couverture annonce « Enquête sur les pratiques de Jean-Marc Morandini, nos révélations exclusives ». L'article de Fanny Marlier dévoile les témoignages accablants des jeunes acteurs contre Catherine Leclerc. Quand la directrice de casting reçoit des vidéos qui ne sont pas assez explicites à son goût, elle envoie aux fautifs des messages mielleux et insistants, expliquant que tous les autres comédiens, eux, ont joué le jeu. À Gabriel, elle écrit « Je n'ai pas compris si vous alliez jusqu'à l'éjaculation. C'est intéressant, sachant que rien ne sera diffusé. Hein. On est dans le test absolu des limites. » Alors le jeune candidat envoie une nouvelle vidéo, plus dégradante encore. « Je me suis dégoûté », confie-t-il. L'enquête explique aussi comment Catherine Leclerc a payé un billet de train à Gabriel et organisé sa rencontre avec Jean-Marc Morandini, le vrai, dans les locaux d'Europe 1. Le comédien raconte la scène qui a eu lieu dans son bureau. « Nous avons discuté de la série et de mon audition. Et à la fin, il m'a demandé s'il pouvait prendre des photos de moi nu. Oui, pour les besoins du casting. J'en avais déjà envoyé à Catherine auparavant. Mais j'ai accepté. » Désormais, Gabriel en est sûr. Catherine Leclerc n'existe pas. Ou plutôt, il s'agit bien de Jean-Marc Morandini lui-même, qui se fait passer pour une directrice de casting afin d'assouvir ses fantasmes. C'est le courage bien connu de l'anonymat, du miroir sans teint. C'est tellement commode de voir sans être vu. Mais bon, Morandini est célèbre, alors pourquoi se méfier, hein? C'est juste oublier que l'animateur a construit sa carrière à coup de scandale, comme le résument les guignols de l'info en 2010.
On commence évidemment par ce terrible séisme dont toutes les télévisions parlent d'Haïti. Les journaux y consacrent une grande partie de leurs reportages. Les chaînes font de nombreuses éditions spéciales. Même les émissions People en parlent. Jean-Marc Morandini, vous parlez du séisme en Haïti, vous aussi?
Bien sûr, tout ce qui est clash et qui fait du buzz, on en parle.
Mais il est où le clash, là?
Il y a eu un gros clash entre la plaque tectonique nord-américaine et la plaque caribéenne, ce qui a provoqué le séisme.
Ouais, bah ça c'est limite.
Non, ça compte. Il y a clash. Derrière, il y a un buzz énorme sur le net. En plus, on peut suivre le nombre de morts sur Twitter. Il y a un énorme élan de solidarité sur Facebook. Donc on est dessus.
Il y a clash et buzz, oui, il a le droit d'en parler.
Mais comment devient-on le sulfureux Morandini? Il naît en août 1965 à Marseille, dans une famille corse de la classe moyenne. Son père est ingénieur, sa mère secrétaire. Très tôt, le jeune garçon rêve de télé. Après des études de journalisme et de communication, il entre à France 3 Midi-Pyrénées en 1986 à l'âge de 21 ans. Deux ans plus tard, changement d'ambiance. Il rejoint la 5, la chaîne de Berlusconi. Son goût de l'actu et sa réactivité lui valent le surnom de « Morand Direct ». De quoi séduire également TF1, qui lui ouvre grand ses portes en 1993. Le 17 septembre, à 22h30, c'est la première diffusion de Tout est possible, un talk show que Morandini présente à la manière d'un battleur de foire, payé pour vendre du cul, de l'angoisse et des larmes, comme il le dit lui-même.
Ne zappez pas! Ce sont des vedettes et tout semble aller pour le mieux pour elles. Pourtant, certaines de ces stars ont vécu des drames ou des expériences hors du commun. Ainsi, Thierry Redler, le héros des filles d'à côté qui est passé de maison de correction en famille d'accueil, n'hésitant pas à voler pour manger. Elle s'appelle Lolo Ferrari, elle a les plus gros seins d'Europe en silicone. Elle fait du 135 bonnet F, ça fait rêver. Elle sera pour la première fois sur un plateau de télévision.
Françoise, à quel moment vous êtes-vous rendu compte que l'homme avec lequel vous viviez était un pédophile?
Le jour des 30 ans de mon fils, le papa de la petite qui a été violée.
Fini Morand Direct, à présent l'animateur vedette de la télé trash est surnommé Morand Zizi. Mais son émission a beau être vilipendée par la profession, elle enregistre des audiences records. Fin 93, Tout est possible décroche 62% de parts de marché avec la première apparition télévisée de Lolo Ferrari et atteint même 75% certains soirs, presque un score de Coupe du Monde de foot. De quoi vendre du temps de cerveau disponible, donc de la pub et à prix d'or. Mais en juin 97, le prince noir de l'audimat entre en disgrâce. Oh, les audiences sont toujours très bonnes. Mais TF1, la chaîne la plus regardée de France, se déclare en quête de sens. L'exact contraire des émissions de Morandini. L'animateur est donc remercié après 4 ans de bons et loyaux services. Direction une traversée du désert qui le laisse à jamais amer.
11h-14h, le Grand Direct, Jean-Marc Morandini.
Bonjour, je suis Julie. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Direct pour être les premiers à tout savoir de l'actualité, pour être les premiers à réagir.
Au début des années 2000, il revient à la radio cette fois. D'abord sur RMC, puis sur Europe 1, où il anime une émission dédiée aux médias, cette rubrique consanguine qui sévit dans tous les médias. Puis en 2006, c'est retour à la télé, par la petite porte. L'animateur présente l'émission titrée « Morandini » avec un point d'exclamation et sur Direct 8. La chaîne a beau appartenir au milliardaire Vincent Bolloré, son empire médiatique n'en est qu'à ses balbutiements. Et les audiences sont maigres, tout comme les moyens financiers d'ailleurs. Qu'importe, l'animateur au sourire ultra bright est à nouveau dans la lumière, c'est le principal, fini à la petite mort. Mais avec lui, le scandale n'est jamais loin. En juillet 2009, les obsèques de Michael Jackson ont lieu à Los Angeles. Une superstar qui vient de mourir dans des circonstances troubles, une famille endeuillée, c'est du caviar pour Morandini, qui annonce sur Direct 8 une émission exceptionnelle.
Merci de nous retrouver. Nous sommes donc ensemble pendant 2 heures pour vivre cet hommage à Los Angeles, hommage rendu à Michael Jackson. Tout de suite, pour commenter ces images qui nous arrivent de Los Angeles, on va rejoindre Jean-Luc Genest et Alan Van Dark.
Que se passe-t-il actuellement là-bas?
Alors, eh bien, les, vous le disiez tout à l'heure, donc la famille Jackson a quitté il y a quelques heures à peine le Forest Lawn Cemetery. Ils sont maintenant donc partis avec 5 Rolls-Royce, 3 Cadillac et une dizaine de 4x4 vers le Staples Center. Beaucoup de personnes sont à l'extérieur et essayent de rentrer. Ils seront refoulés, c'est ce que la police a fait savoir.
Ouais. Très bien, merci à tous les deux. On vous retrouve bien évidemment régulièrement tout au long de cette émission.
En vérité, les deux chroniqueurs désignés par Morandini se trouvent dans une salle à part et portent un casque audio sur les oreilles. Derrière eux, un grand écran diffuse les images des funérailles du roi de la pop. Et c'est sûr, ils sont en duplex des États-Unis. Que nenni, les envoyés spéciaux se trouvent à Puteaux, dans les locaux de la télé, et n'ont été envoyés que 2 étages plus bas d'un coup d'ascenseur. Telle est la conception du grand reportage, version direct 8, avec tous les risques que ça comporte tout de même. Un ascenseur peut toujours tomber en panne. Quelques jours plus tard, le site Rue 89 révèle le bidonnage. Ce qui n'empêche pas Morandini de poursuivre tranquillement sa carrière, toujours sur direct 8, puis sur Énergie 12, où il présente l'émission de faits divers intitulée « Crime ».
Crime s'installe ce soir dans le sud-ouest de la France pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Drame en Aquitaine, c'est tout de suite.
Le 12 juin 2016, Morandini tient enfin sa revanche sur tous ceux qui l'ont critiqué, notamment les guignols de l'info. Car Vincent Bolloré vient de racheter Canal+, et organise une grande conférence de presse pour annoncer le futur de sa chaîne, genre Canal+. Au premier rang, le milliardaire a installé Jean-Marc Morandini. Il n'a pas oublié que 10 ans plus tôt, l'animateur a accepté de travailler pour lui quand son empire des médias n'en était pas un. Morandini exulte. Mais il ne sait pas encore que dans quelques jours, une enquête va tout changer. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Morandini, un prédateur dans le poste.
Bienvenue sur le plateau de Morandini. Toute l'actu média, les scoops, les coulisses et les exclus, c'est tous les soirs sur Direct 8.
Affaires Sensibles.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pendant une heure. Toute l'actualité de la télé, du people et du buzz, c'est ici et nulle part ailleurs.
Fabrice Drouel.
Lorsque les Inrock révèlent que Jean-Marc Morandini a organisé des castings à connotation sexuelle avec de jeunes comédiens naïfs, l'animateur est en vacances, à Chicago. Mais à Paris, les révélations font l'effet d'une bombe. Fabien Amiras, le directeur général d'Europe 1, où l'animateur travaille depuis maintenant 13 ans, se dit stupéfait et il exige des explications. Alors, à peine arrivé sur le sol français, Morandini convoque une conférence de presse à son image.
J'ai donc décidé de parler parce que ça suffit. J'en prends plein la gueule depuis une semaine. Et là, franchement, c'est trop. Je lis des articles dégueulasses. Je lis des témoignages que personne ne vérifie, des accusations ignobles, et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, j'ai d'ailleurs arrêté de les lire. Alors puisqu'il le faut, je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Les Inrocks manipulent la vérité. Les Inrocks font les chiottes. Et ils veulent me faire passer pour un immonde pervers. Alors je vous le dis clairement et franchement, oui, j'ai produit cette série, cette web-série qui s'appelle Les Faucons. Non, contrairement à ce qu'on veut faire dire, cette série n'était ni glauque, ni sordide. Alors oui, bien sûr, il y a de la nudité dans cette série. Il y a deux minutes de nudité par épisode. Aucune relation sexuelle. Aucune. Alors je voudrais juste vous demander quel est le problème aujourd'hui. Les acteurs savaient ce qu'ils venaient tourner. Dès le premier contact avec ma boîte de prod, c'était écrit noir sur blanc. Vous savez, je suis corse. Et en Corse, il y a deux choses sacrées. C'est l'honneur et la famille. Ils ont piétiné ces valeurs. Et franchement, je n'oublierai jamais. Merci.
Morandini a beau tempêter, s'indigner, les langues continuent de se délier. Le 27 juillet 2016, c'est au tour du Nouvel Observateur de publier une enquête explosive. On y apprend qu'en 2005, l'animateur a publié une première annonce pour recruter des comédiens. Cette fois, le projet doit faire référence au film Ken Park de Larry Clark et Edward Lachman. 3 ans plus tôt, ce long métrage avait fait scandale avec ses scènes extrêmement crues jouées par de tout jeunes acteurs. Le casting du Ken Park français, comme le présente Morandini, est réalisé par de mystérieux professionnels. Une certaine Claire, qui se présente comme responsable du casting, mais qui ne donne ni nom de famille, ni numéro de téléphone, et qui utilise une adresse mail au nom d'une ancienne société de Morandini. Il y a aussi Stéphane, qui écrit depuis l'adresse morandini.family@free.fr, et également utilisée par l'animateur. Jonathan, qui n'a que 16 ans, reçoit un mail d'une assistante anonyme. Elle se dit en quête de talent, inscrit comme lui sur des sites de casting. Très vite, l'interlocutrice mystère évoque une scène de nu dans le film. De quoi refroidir l'aspirant comédien. L'assistante lui fait alors miroiter un cachet de 60 000 euros ainsi qu'un casting avec Jean-Marc Morandini lui-même à son domicile du 16e arrondissement de Paris. Jonathan raconte.
Jean-Marc Morandini déroule son écran de cinéma pour avoir un fond uni en arrière-plan des photos. Je me retrouve allongé sur le canapé. Il n'y avait rien de sexuel, il ne m'a pas touché. Puis, il a reçu un coup de fil et il est sorti de la pièce. Mais avant, il a jeté un tas de photos sur la table. Je découvre une quinzaine d'autres candidats, des clichés nus de mecs de 20 ans. À son retour, il m'a ensuite montré la scène la plus hard du film Ken Park, celle où le personnage se masturbe en s'étranglant. Je lui dis « je ne suis pas d'accord ». Il me répond alors « je te laisse une semaine pour réfléchir ».
Et Jonathan ne donne pas suite. 3 autres jeunes hommes racontent avoir été approchés de la même façon pour travailler sur ce film fantôme dont aucune scène n'est jamais tournée. Pourtant, entre 2005 et 2013, l'annonce des castings est régulièrement postée sur le blog de Morandini ou des sites spécialisés. Dans la foulée de ces révélations, le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes préliminaires à l'encontre de l'animateur. La première fait suite à l'affaire des Faucons. Plusieurs comédiens ont porté plainte contre Morandini pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. L'autre enquête est plus grave encore, car les gars sont concernés, sont cette fois mineurs, comme l'explique le journal de France Inter le 23 septembre 2016.
Le premier avait 16 ans au moment des faits allégués en 2009. Contacté pour un casting, il aurait posé nu pour des photos au domicile de l'animateur. En confrontation durant sa garde à vue, Jean-Marc Morandini a affirmé ne se souvenir ni du jeune homme ni de cette séance. Le deuxième évoque des faits de 2013. Il avait 15 ans lorsqu'il aurait reçu de l'animateur des messages via Twitter et par SMS contenant des propositions sexuelles. À l'époque, ses parents avaient signalé les faits à la police sans porter plainte. Selon Patrick Lugman, l'avocat de Jean-Marc Morandini, il y a bien eu des échanges, mais l'animateur ignorait l'âge de son correspondant.
On est essentiellement sur des messages, sur des échanges, sachant que Jean-Marc Morandini échange toute la journée avec beaucoup, beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs, d'auditeurs, pas spécialement avec des mineurs, qui ne parlent pas spécialement de choses de nature sexuelle. Donc, il faut aussi remettre tout ça dans un contexte, l'expliquer. Et Jean-Marc Morandini, il estime que sa collaboration permettra rapidement d'établir que judiciairement, il n'y a rien.
Mais pour Europe 1, c'en est trop. À la rentrée 2016, la station annonce que son animateur est mis en retrait de l'antenne jusqu'à nouvel ordre. Mais pas Énergie 12, qui lui renouvelle sa confiance. Quant à Vincent Bolloré, il n'a pas non plus l'intention de changer ses plans, malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur Morandini. Mi-octobre, l'animateur doit présenter Morandini Live, sa nouvelle émission sur iTélé. Elle est maintenue comme si de rien n'était. Alors au sein de la rédaction, la colère monte. Et l'enjeu n'est pas seulement d'ordre moral. Les journalistes s'inquiètent également de l'ingérence du milliardaire breton dans sa ligne éditoriale. S'il est capable de maintenir Morandini à l'antenne, jusqu'où ira-t-il dans ses pressions sur les journalistes? iTélé est devenue une poudrière et Morandini fait figure de détonateur. Le 17 octobre 2016, c'est l'explosion. Morandini prend les rênes de sa nouvelle émission dans les locaux désertés pour cause de grève massive.
Plus de directs fournis depuis 11h ce matin à iTélé. La grève a été votée à 85% ce matin, c'est un mouvement massif.
Eh oui, c'est un chiffre écrasant même, car ce matin, c'est l'ensemble des salariés qui se sont exprimés, pas seulement la rédaction. Un vote intervenu à l'issue de 2 heures d'Assemblée Générale, marqué notamment par l'annonce du départ d'Alexandre Effi, directeur adjoint de la rédaction, considéré comme l'un des derniers remparts face à la direction. A été décidée une grève de 24 heures, reconductible, contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini, mais pas que. Antoine Genton est le président de la Société des journalistes.
On souffre de ne pas avoir suffisamment de moyens depuis plusieurs mois maintenant. On a perdu 50 postes au mois de juin, alors qu'on accueille Jean-Marc Morandini qui, lui, va travailler avec une équipe de 6 personnes dédiées à son émission pour une heure d'antenne. Ce sont des décisions qu'on a du mal à comprendre.
Un jour, 2 jours, 10 jours, chaque matin, les journalistes en grève se rassemblent au pied de la tour qui abrite les locaux d'iTélé. Au programme, des réunions syndicales, des prises de parole des leaders de la contestation, mais aussi des interviews auprès des médias qui se passionnent pour ce conflit social inédit. Bolloré, lui, n'a aucune intention de calmer les esprits, au contraire. 11 jours après le début de la grève, sur ses ordres, des travaux commencent dans les locaux d'iTélé pour permettre aux équipes de Direct Matin, son journal gratuit, de s'y installer. Provocation ultime, le milliardaire breton fait accrocher le slogan « News Factory », usine à information, sur la façade de l'immeuble. De quoi rendre les journalistes fous de colère. Puis le slogan est enlevé, mais pas en signe d'apaisement, non. En réalité, les lettres sur la façade sont trop lourdes et menacent de s'écraser quelques mètres plus bas sur les grévistes. Manquait plus que ça. Le 24 octobre 2016, la direction d'iTélé suspend temporairement l'émission de Morandini, mais sans le licencier, ni céder aux autres revendications des grévistes. Et le conflit s'enlise.
La direction a donné jusqu'à vendredi aux journalistes pour faire jouer leur clause de conscience, c'est-à-dire prendre la porte avec indemnité. Un immense gâchis, estime Mylène Payet du syndicat Plus Libre.
Cette chaîne, elle est née en 99, il y en a qui sont là depuis le départ. C'est une rédaction sérieuse, on est en train de détruire tout ça. C'est le sentiment qu'il y avait dans l'Assemblée Générale tout à l'heure, chez les salariés, c'est un sentiment de gravité. Ouais, c'est un sentiment de dégoût. On se dit, c'est dommage, elle est bien cette chaîne, on l'aime bien, on travaille dur pour elle. Et en face, la réponse, elle est très dure, ouais.
Après 31 jours de grève, c'est une équipe exsangue qui vote la reprise du travail face à un Bolloré toujours aussi inflexible. Mais à iTélé, plus rien ne sera comme avant. 35 journalistes, soit un tiers des équipes, claquent la porte. 6 mois plus tard, la direction transforme iTélé en CNews. Et Morandini y trouve tout naturellement sa place à la rentrée 2017 et promet des décryptages sur le monde des médias ou la communication politique. En réalité, ce nouveau talk show est rythmé par des sujets sensationnalistes, y compris sur les thèmes de la pédocriminalité, mais aussi des critiques contre les nombreux ennemis de Morandini et des clashs entre invités. On ne change pas une recette qui marche. Morandini a les coudées d'autant plus franches. en 2017. L'affaire des Faucons est classée sans suite. L'animateur est également protégé par ses bonnes audiences, qui sont à la fois son obsession et son assurance-vie, selon la formule du journaliste Nicolas Poincaré. Sur Internet, il continue de poster des photos de sa vie confortable, ses voyages aux États-Unis, son chien, les people qu'il fréquente. Il abreuve aussi son blog d'articles médias et n'hésite pas à désinguer ce qui lui déplaise ni à cajoler ce qui pourrait servir ses intérêts. Mais en 2018, les comédiens des Faucons portent à nouveau plainte, cette fois en se constituant en partie civile. Et le volet pédocriminel de l'affaire n'est pas non plus refermé. Mais le temps de la justice est un temps long et il joue en faveur de l'accusé. La présomption d'innocence, c'est tout ce qui compte, affirme Bolloré. En octobre 2022, Morandini est finalement jugé pour corruption de mineurs suite au casting du Ken Park français et pour des échanges avec deux autres adolescents. En décembre, il est condamné à un an de prison avec sursis, obligation de soins et inscription au FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. En avril 2023, il est jugé pour l'affaire des Faucons. En août, il est reconnu coupable de harcèlement sexuel et écope de 18 mois de prison avec sursis, plus une amende. Sur le plateau de BFM TV, Francis Spinner, l'avocat des victimes, s'en félicite.
Je me réjouis de cette condamnation parce que ça montre que quelle que soit la notoriété des gens, ils ne sont pas au-dessus des lois. Et dans cette affaire, M. Morandini était dans le déni. Le tribunal a estimé que nous avions affaire à un prédateur parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné, mais depuis le début de cette affaire, il n'a eu de cesse de vouloir retarder l'échéance judiciaire.
Effectivement, pour les deux affaires, Morandini fait appel. Pour les deux affaires, il est à nouveau condamné. Et pour les deux affaires, les peines sont alourdies. Car le tribunal veut souligner son absence de regret et de volonté de changer. Mais tout justiciable le sait. Tant qu'il y a des recours, il y a de l'espoir. Et surtout, et en l'occurrence, du temps d'antenne. Morandini se pourvoit donc en cassation. Mais la presse, elle, n'en a pas fini avec lui. Le 21 septembre 2021, le quotidien régional Sud-Ouest publie le compte-rendu du procès d'un certain Arnaud C., poursuivi pour avoir agressé sexuellement son filleul de 16 ans. Au détour de l'article, on apprend que cet individu a travaillé sur le site web de Morandini et que les deux hommes ont échangé de curieux SMS dans les jours précédents de passage à l'acte. Nous sommes alors en 2017 et Morandini est déjà surveillé par la justice. 6 mois après l'article de Sud-Ouest, le site Mediapart révèle la teneur de ces messages. La voici. Sur le point de partir en week-end avec son filleul, Arnaud C. raconte par SMS à l'animateur qu'il a pour objectif de séduire l'adolescent. « Tu m'enverras des photos de tes vacances », répond Morandini. Quelques heures plus tard, Arnaud C. envoie une photo volée de Jérémy en caleçon dans des douches publiques, puis un gros plan de son jean cadré sur l'entrejambe. « Faut enlever, lol », répond Morandini. « La première nuit à l'hôtel, il n'y a qu'un lit de place, donc il va devoir dormir avec moi », promet Arnaud C. C'est dans cet hôtel que le quadragénaire agresse sexuellement l'adolescent qui parvient à s'enfuir. Arnaud C. est arrêté, jugé, condamné. Mais les SMS de Morandini ne retiennent absolument pas l'attention du juge d'instruction. En avril 2023, Mediapart publie une nouvelle enquête. Celle-là révèle l'existence de centaines de conversations à caractère sexuel de l'animateur avec de nombreux mineurs, dont certains ont à peine 15 ans. Et à qui il promet notamment une rencontre avec Cyril Hanouna en échange de photos explicites. David Perrotta, le journaliste qui signe l'enquête, estime que ces échanges prouvent, et je le cite, « l'obsession de l'animateur pour les jeunes adolescents est un véritable système ». Dans une émission diffusée sur Mediapart, Guillaume, 17 ans au moment des faits, témoigne.
Au bout de quelques jours, ça passe sur « tu peux m'envoyer des photos, qu'est-ce que tu fais ?» bah, j'ai hâte de te voir, de faire des bisous, enfin voilà, ce genre de choses.
Est-ce que vous, c'était votre envie à l'époque? Est-ce que vous répondiez à ça? Est-ce que vous lui envoyez des photos, par exemple?
Non, c'est pas du tout réciproque. Après, soit j'acquiesce, soit je change de sujet, parce que c'est absolument pas quelque chose que je souhaitais.
Et quand vous dites qu'il vous demande d'envoyer des photos, c'est des photos...
C'est des photos de moi nu, clairement. Enfin, j'ai des phrases qui me reviennent. C'est vraiment doucher, coucher, toucher. J'ai beau dire non et envoyer des photos classiques de moi, non dénudées, il revient toujours à la charge pour me demander à nouveau des photos. Donc il m'indiquait merci, c'est quand les bisous en vrai? À ça je réponds, je ne sais pas, une fois que j'aurai mes 18 ans. Tu sais, en France, la majorité sexuelle est à 15 ans, il suffit juste de vouloir. Et à moi de lui rétorquer, oui, enfin, je trouve qu'être majeur serait tout de même plus approprié. Ce n'est pas dans si longtemps, d'ailleurs. C'est quelque chose qui peut le définir, prédateur sexuel, clairement. Il cherche sa proie et il ne la lâche pas jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il souhaite.
Malgré ses ultimes révélations et en attendant le résultat de pourvoi en cassation, Morandini poursuit son chemin cathodique avec la bénédiction de son patron Vincent Bolloré. Parmi les sujets abordés dans son émission, meurtre sordide, embrouille entre stars, mais aussi pédocriminalité.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Morandini, on en parle avec notre invitée Fanny Marlier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et ex-rédactrice en chef adjointe aux Inrecuptibles et vous êtes donc à l'origine des toutes premières révélations concernant le système Morandini. On l'a vu au cours du récit. Vous êtes également l'autrice du livre « Les enfants sacrifiés des pensionnats sanitaires », livre paru en mars dernier aux éditions Jean-Claude Lattès. On en dira un mot à la fin de l'interview. Alors, vous étiez une toute jeune journaliste hein, quand vous avez tiré les premiers fils de l'affaire du casting des Faucons. À quel moment comprenez-vous que vous êtes face à un scandale majeur?
Ce que je peux commencer par dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important dans le journalisme et dont on ne parle pas souvent, c'est que je crois qu'il faut avoir de la chance et que j'en ai eu. C'est-à-dire que lorsque je note donc à la fin du générique de la série les noms des comédiens et que je les contacte via les réseaux sociaux, le premier qui me rappelle aurait très bien pu me dire « circuler, il n'y a rien à voir » ou « je ne veux pas en parler ». Et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il avait envie, en fait, que quelqu'un s'intéresse à cette histoire et qu'il avait besoin de vider son sac, en quelque sorte. Donc, c'est allé assez vite, ensuite, dans le sens où lui m'a mis en contact avec d'autres comédiens, que j'ai peu à peu récupéré énormément de documents. J'ai récupéré plus de 600 pages de mails. C'est la force, en fait, de cette enquête, c'est qu'elle s'appuie sur énormément d'écrits. Ça permet vraiment, cette multiplication de témoignages et de documents, ça permet vraiment de dessiner le puzzle de l'enquête, en fait.
Et alors, cette Catherine Leclerc, là, vous avez vu assez vite qu'elle s'appelait Jean-Marc Morandini?
Catherine Leclerc, c'est un personnage important puisque c'est elle, justement, la plupart du temps, les trois quarts du temps en tout cas, qui signe ses mails, les mails dans lesquels elle s'adresse, donc cette directrice de casting dans lesquels elle s'adresse aux comédiens. Et en fait, très vite, ces jeunes comédiens me disent avoir des doutes, en fait, hein, sur le fait qu'elle existe. Même, il y a des détails très troublants quand on se plonge dans ces échanges, c'est-à-dire le fait qu'elle écrive parfois, qu'elle parle d'elle en écrivant au masculin. Le fait que personne ne sache si elle existe vraiment, parce que personne ne l'a vue, ni les comédiens, ni les équipes techniques du film. Les comédiens ont très vite des doutes, mais la supercherie leur paraît tellement énorme face à l'image d'un animateur télé connu, qui se disent que c'est pas possible, en fait, que ça paraît trop gros.
Alors, Morandini, suite à vos révélations, tient une conférence de presse dont on a entendu un extrait, il vous accuse publiquement d'avoir publié un tissu de mensonges. Comment réagissez-vous à l'époque? Et d'ailleurs, est-ce qu'il vous appelle? Est-ce qu'il fait pression?
C'est vrai qu'il me cite nommément. Il est assez dédaigneux en parlant de moi, en étant, je crois que les mots qu'il utilise, il dit cette pigiste là. Moi, il faut imaginer que je suis donc très jeune, j'ai 26 ans, je suis diplômée depuis 6 mois. Je vis la scène sur mon ordinateur, seule dans mon appartement. Donc voilà, quand on est pigiste, on n'est pas en rédaction à plein temps. Je suis un peu sonnée de tout ce qui se passe, en fait, de l'emballement derrière que j'avais pas du tout anticipé. anticipé. Mais très vite, c'est une conférence de presse ratée avec une mise en scène d'un complot avec, je crois qu'il brandit même la photo de Marc-Olivier Fogiel en disant que tout est de sa faute. Bah, il est temps de raconter que tout ça est bien évidemment faux et que au risque de le décevoir, moi je peux pas forcément dire comment on me met sur la piste car ce serait donner des possibles indications sur de possibles sources.
Mais ce que le secret des sources pour les journalistes.
Voilà, hein, exactement. Voilà, mais en tout cas c'est pas Marc-Olivier Fogiel qui me met sur sa piste. Et en journalisme, je crois qu'en réalité les histoires elles sont beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Alors oui, c'est sûr que dans le journalisme et particulièrement dans les enquêtes, les personnes qui nous donnent des informations, elles peuvent avoir un intérêt, que ce soit financier, politique, oui, ou que
on
sais-je.
On peut être manipulé, bien sûr.
Exactement. Mais en l'occurrence, là-dedans, pas du tout. Et puis, encore une fois, je m'appuie sur un nombre de preuves écrites énorme.
Et je rappelle nos auditeurs et auditrices qu'un pigiste ou une pigiste, c'est un ou une journaliste qui peut avoir aussi beaucoup d'expérience. Hein, c'est simplement une façon de travailler.
C'est un mode de rémunération. Et
voilà, un pigiste n'est pas un sous-journaliste, évidemment. Encore fallait-il le préciser.
France Inter. Affaires sensibles.
Fanny Marlier, quelles ont été les réactions de la profession, les journalistes, au moment de vos révélations? Parce que quand on a une information exclusive, la presse, les confrères, les consorts sont pas toujours bienveillants, peut-être un peu jaloux aussi, ça arrive. Quelles ont été les réactions?
Oui, il y a quand même eu beaucoup de réactions plutôt bienveillantes. J'ai reçu des messages de personnalité de la profession que je ne connaissais pas du tout pour me féliciter. Mais il y a aussi eu quelques réactions plus négatives, on va dire. Notamment, je me souviens de Jean-Michel Apathy, qui disait être très gêné par cette affaire, qui disait qu'une mise en examen ne pouvait pas être une mort sociale quand il était question de la grève des journalistes d'ITélé. Il y a aussi une autre personnalité qui intervient et qui est Christophe Ondelat, qui dit oui, alors la France a découvert que Jean-Marc Morandini est un immense pervers, mais à part ça, il est très défendable. Tout ça, c'est du domaine privé, de la sexualité. Donc, il faut réaliser qu'on est en 2016, on est à ce moment-là, là, sur les plateaux télé, un an avant le mouvement MeToo.
Absolument.
Avant même aussi que la profession des journalistes ne considère plus les violences sexuelles comme un fait divers, mais qu'elles s'en...
Un fait de société.
Comme, qu'elles s'en chargent et qu'elles se professionnalisent sur cette question et qu'elles les considèrent comme des faits de société. Mais dans ces déclarations, que ce soit de Jean-Michel Apathy ou de Christophe Ondelat, on assiste vraiment à une banalisation des violences, en fait. C'est vraiment une manière de les minimiser et de les mettre sur le compte d'affaires privées, d'une histoire qui aurait mal tourné. En tout cas, le système mis en place par Jean-Marc Morandini n'est, par ces personnes-là, pas du tout interrogé, et ni la facilité avec laquelle il a pu d'ailleurs opérer pendant des décennies, puisque vous le montrez bien dans votre récit, c'est qu'il n'y a pas que mon enquête. J'ai même retrouvé des faits encore plus anciens. Mais il y a quand même eu un message qui m'a beaucoup marquée. J'ai repensé ces jours-ci. C'est celui de Cécile Duflot qui m'avait écrit et qui m'avait dit, alors pareil, on est, quand mon enquête sort, on est quelques mois après l'affaire Denis Baupin qui vient d'éclater dans les médias. Et elle me dit, je crois qu'il est souvent plus simple pour ces personnes, pour des témoins, de témoigner auprès de journalistes qu'auprès de policiers. Et ça a résonné assez fort en moi en tant que jeune journaliste. En fait, ce qu'elle voulait dire en filigrane, c'est que même si nous, les journalistes, on n'est bien évidemment pas des policiers, on n'est pas des juges, c'est pas du tout comme ça que je vois ma profession, en tout cas, mais c'est, on ne décrète pas si les gens sont coupables de tel acte ou tel acte, mais en revanche, nous, ce qu'on essaie de documenter, c'est des faits qui relèvent de l'utilité publique et qui, parfois, en enquêtant, on peut faire émerger des faits qui recouvrent des crimes ou des délits. On montre aussi tout ce que sous-tend ces affaires, on pose des questions, on essaie de documenter la notion d'abus de pouvoir, les rapports de subordination qui sont très importants aussi. Puisque c'est important de rappeler qu'ici, de quoi on parle quand même d'un employeur qui demande, dans le cadre d'un potentiel recrutement, d'envoyer des vidéos à caractère sexuel et qui insiste. C'est important aussi qu'il y a cette notion, donc à travers Catherine Leclerc, puisque Jean-Marc Morandini a reconnu que c'était bien lui, elle insiste, elle envoie énormément de messages. Si les jeunes ne répondent pas assez vite, elle réinsiste, elle renvoie un message dans l'heure. Enfin, il y a vraiment.
Il y a un système, en fait.
Il y a vraiment un système qui se dessine très rapidement, ouais.
Et alors, le système Morandini, précisément, commence avant le, vous l'avez dit, le forecasting du Ken Park à la française, qui date, lui, de 2005. Vous êtes remonté jusqu'à un site web nommé Génération Gay. De quoi s'agit-il?
Oui, au début des années 2000, Jean-Marc Morandini aurait aussi procédé à des castings douteux sur le site Génération Gay. J'avais à l'époque recueilli le témoignage de Vincent qui venait d'être entendu par les policiers qui menaient une enquête. Le site Génération Gay, c'est un site de petites annonces où on trouve aussi notamment des photos de jeunes hommes dénudés. Et en réalité, ce que j'ai pu documenter avec aussi le témoignage d'un ancien salarié, c'est que le modus operandi, il existait déjà. Déjà, il faisait venir dans ses bureaux des jeunes hommes pour passer des castings en leur demandant de se déshabiller, de se masturber, voire d'aller plus loin. Et en plus, Vincent arrive, il est seul dans le bureau, c'est durant un week-end, la porte est fermée. Et il raconte à Jean-Marc Morandini combien le salaire, moyennant ses photos dénudées, sont décisifs pour lui parce qu'il est SDF, il sort d'un foyer. Donc voilà, il est quand même dans une situation de vulnérabilité à ce moment-là.
Et Bolloré qui continue à apporter un soutien indéfectible à Morandini, une stratégie commerciale cynique, c'est quoi selon vous?
Alors à la fois, depuis le début, la défense d'ITélé / CNews, c'est de dire présomption d'innocence, tant qu'il n'y a pas une condamnation définitive, on ne bouge pas. À la fois, ce qui était dit déjà dès son arrivée dans la chaîne qui s'appelait ITélé à ce moment-là, c'était qu'il allait faire des bonnes audiences.
Ouais.
Donc il y a cet aspect-là qui est important, voilà, comme vous le dites. Mais il y a aussi des liens, en fait... plus historique. C'est-à-dire qu'en réalité, Jean-Marc Morandini et Vincent Bolloré se connaissent depuis longtemps. Jean-Marc Morandini a présenté une émission sur D8. Il a été chroniqueur chez Direct Soir, chez Direct Matin.
Oui, au moment où c'était pas un média surpuissant. Donc
exactement.
Il y a une espèce de reconnaissance, de renvoi d'ascenseur, quoi.
Peut-être. En tout cas, il y a des liens peut-être personnels qui peuvent se jouer. L'actuel aussi, patron de Canal+, Gérald Brice-Viré, a dirigé Énergie 12 avant de devenir directeur du pôle TV de Lagardère, qui possédait notamment Europe 1. Enfin voilà, il y a des liens plus anciens.
Bon, dernière question, je l'ai dit quand je vous ai présenté, vous êtes l'autrice d'un livre tout récent qui vient de sortir, Les enfants sacrifiés des pensionnats sanitaires. Vous l'avez écrit avant Betarame?
Oui, je l'ai écrit avant Betarame. J'ai commencé les recherches en octobre 2023. Donc c'est une enquête qui m'a inspirée pendant de longues années, où j'ai recueilli une cinquantaine de témoignages de personnes passées dans des pensionnats sanitaires qui en fait étaient victimes d'un ciblage social. Ils étaient envoyés à l'autre bout de la France, à des centaines de kilomètres de chez eux. Ils étaient âgés entre 2 et 12 ans. Donc c'est vraiment des enfants, c'est pas des adolescents, ouais, comme Betarame, où ils étaient un peu plus âgés. Et là-bas, donc ils étaient envoyés sous couvert de soins. On prétextait parfois qu'ils étaient malades, mais en réalité, c'était souvent des familles très démunies, issues de classes ouvrières, agricoles ou monoparentales, à qui on disait que ça allait les soulager d'envoyer leurs enfants respirer le bon air près de l'océan pendant quelques mois. Et en réalité, ils ont vécu des atrocités là-bas.
Livre douloureux, mais utile, chez Jean-Claude Lattès. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci Fanny Marlier. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Jean-Marc Morandini, un prédateur dans le poste. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Wagon.